Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Je suis Irem et je suis accompagné de Giscal pour débriefer ensemble Fastlane, le pay-per-view le plus hot de la WWE. Ça rigole déjà, et oui, ça rigole. Salut Giscal, comment vas-tu ?
Salut Irem, ça va bien, ça va très bien, et toi pour analyser cette autoroute du plaisir ? Qui est Fastlane.
Ah ouais, mais c'était une vraie autoroute, c'est-à-dire ça n'a pas duré longtemps, c'était vite. Quoique, certains, on verra, hein, certains matchs ont pris leur temps. Donc, je vous rappelle que Catch-Up, on fera ça à la fin. Pourquoi je dis on fait ça à la fin, les abonnements, les mecs commencent à bosser, le Twitter, le Facebook.
Allez.
En petit préambule, juste, si vous êtes peut-être déjà au courant, mais on a retrouvé dans le grenier des studios, un vieux téléphone rouge et un téléphone magique. Et quand j'ai décroché, puisque j'ai eu l'honneur de trouver ce téléphone, il y avait au bout du fil un certain monsieur Elias, et oui, Elias de la WWE. Du coup, j'ai pu lui poser trois questions. C'est un peu comme la lanterne du génie, hein, dans Aladdin. J'ai pu lui poser trois questions, et donc vous pouvez retrouver ces trois questions, et donc les trois réponses incroyables, hein, Elias, un grand monsieur, sur notre chaîne YouTube.
Surtout les trois réponses.
Ouais. Ouais, surtout les trois réponses, et Catch-Up CDC. On vous a fait en plus un petit transcript, les traductions en sous-titres en anglais ou en français, hein. Je me suis tartiné les deux. Et vous pouvez également retrouver l'interview sur le site Voxcatch, hein, qui nous a aidé à trouver ce téléphone rouge. Vous aurez l'interview en texte et en audio, voilà, comme ça, les deux, voilà, tout le monde est content. Le téléphone rouge profite à tout le monde. Qui sait, peut-être, si on le décroche la prochaine fois, qui on aura. Voilà, c'est voilà du contenu en plus, hein, pour Catch Up, pour votre podcast.
C'est pour vous,
c'est pour vous, public. vous le méritez bien. Bon allez, revenons aux choses concrètes, aux choses de Stamford, aux choses de SmackDown. Eh ben, on va prendre la carte dans l'ordre, hein, si tu veux bien. Juste une petite question habituelle.
Est-ce que tu as regardé le pré-show ?
Est-ce que tu as regardé le pré-show ? C'est non, vrai, c'est une question. Est-ce que tu as regardé le pré-show ?
Non, je n'ai pas regardé le pré-show. Exceptionnellement, je n'ai pas regardé le pré-show.
Et apparemment, moi, je l'ai regardé.
Eh bien, écoute, félicitations.
J'ai regardé le pré-show et donc, du coup, j'ai eu l'immense et l'agréable surprise de voir qu'il y avait un match, un 3v3 qui opposait donc la Fashion Popo et le Perfect Ten. Donc, un petit peu les oubliés, hein, les mecs over, mais qu'on oublie. Et ils ont affronté, pardon, Chad Gable et Benjamin, d'autres mecs over, et l'ami Mojo Rawley, un mec qui a été over une semaine ou deux, je crois, dans l'année. Ouais,
c'est
et
ça,
puis voilà.
Ouais.
Et les gentils ont disposé des méchants dans un match sur le ton de l'humour, hein, où on faisait des galipettes. J'avais pris quelques notes, mais je ne les retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Mais voilà, il y avait des petites galipettes. Il y a eu, à un moment donné, une petite séquence sympa où Gable a voulu lancer un défi de type lutte gréco-romaine à l'un des membres de la Fashion Police.
Ah oui.
Il s'est mis à quatre pattes comme ça, hein, comme quand on commence un match, un duel de lutte, et il s'est fait en fait chevaucher tel l'étalon qu'il est.
Ça a l'air bizarre ton match en fait.
Oui. Non, c'était bizarre, c'était largement dispensable. Allez, on passe aux choses sérieuses puisque notre opener n'est nul autre que Shinsuke Nakamura qui affrontait Rusev dans un 1v1. L'objectif de ce match, il est simple. Mettre over Nakamura encore plus qu'il ne l'est, montrer surtout qu'il est prêt
c'est
pour
ça.
Ce fameux dream match qu'on nous vend tant, mais qu'on ne book pas du tout. Donc, un match assez stiff, puisque Eden English nous gratifie d'abord, pardon, d'un rap, j'allais oublier le plus important, un rap à la sauce rock un petit peu, Eden English qui avait la voix brisée, on se souvient, par Nakamura, il a retrouvé sa voix. Donc il nous fait une belle entrée là, rappé en mode Castafiore rappeur, en l'honneur du Rusev Day évidemment, toujours aussi over auprès du public. C'est un peu le match de l'overitude, hein. Là on a carrément.
C'est presque un slam un peu.
Ouais, c'était le grand corps malade, Eden English. Un match, donc, ouais, je disais plutôt stiff, hein, avec une grosse ambiance hein, pour ces deux favoris des foules. Rousseff qui travaille la zone bassinale hein, du japonais pour placer son accolade, hein, plusieurs tentatives. Nakamura lui distribue une bonne pelletée à de gros kicks, il était assez chaud quand même. Pied, tibia, genou, tout y est passé. Le Kinshasa qui est contré hein, à plusieurs reprises, mais pas de bol pour Rousseff. Son accolade l'est également, et cette fois-ci, le Kinshasa final touche la cible pour le compte de 3 à la fin. C'est donc bien le japonais, évidemment, hein, qui gagne. Direction WrestleMania. Le japonais n'a pas trébuché hein, sur ce dernier caillou, caillou bulgare qu'on lui avait posé sur sa route. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que il a fait le boulot? Et est-ce que Nakamura a réussi à monter peut-être un petit peu d'un cran son jeu là pour les 3 ou 4 semaines qui lui restent avant la Nouvelle-Orléans?
Ouais, ça arrive vite, hein, c'est fou. Ouais, écoute, ouais, c'était pas mal. On peut pas dire le contraire. C'était un bon opener puisque on avait deux des mecs les plus over du roster. Donc c'est vrai que rien de tel que ça pour ouvrir le show et mettre un peu le feu. J'ai envie de dire que oui, Nakamura a fait plutôt une bonne démonstration de force. Ça aurait pu être mieux. Bon, vous en avez parlé pendant le pré-show. On en avait parlé pendant notre review la semaine dernière. Bon, bah voilà, on regrette qu'il n'ait pas eu un match un petit peu plus haut profil que. Je ne veux pas manquer de respect à Rousseff, hein, mais
avec
un petit
tout
peu
le respect
plus,
qu'on lui doit.
Un petit peu plus costaud que ça. On avait parlé de John Cena, bon, y a peut-être d'autres solutions. Bon, soit, peu importe. Maintenant, le match était là. Il était plutôt bon, il était plutôt stiff. Moi, j'ai trouvé Rousseff très, très bon dans ce match. Nakamura, moi, perso, alors, je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais j'ai toujours... Enfin, je sais pas, je trouvais que ses coups étaient très mous. Enfin, ses coups de genoux, ça manquait... de manière générale, son match manquait un petit peu d'intensité. Par contre, ce que je lui accorderais, c'est que je trouve qu'il commence à prendre un peu ses aises au niveau du rythme WWE, à savoir que ces matchs, je les regarde plus facilement. Je trouve qu'il déroule ses séquences de manière un petit peu plus maîtrisée. Le jeu avec le public, les temps morts, les temps forts, les temps faibles, il maîtrise un petit peu mieux. Sa période de comeback babyface un peu à la fin est plus digeste. Donc de manière générale, je trouve que c'était une bonne presta de Nakamura. Par contre, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il se retient un peu sur ses coups de genoux, sur ses coups de pied, et que c'est jamais vraiment complètement porté. Alors que, à côté de ça, t'as un mec comme Rousseff qui, lui, c'est vrai que ça claque, tu sens qu'il y va à fond. Donc, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y en avait un qui jouait un peu plus crânement sa chance que l'autre.
Ouais. Bah, les deux sont un peu des spécialistes des coups de pied qui claquent, et c'est vrai qu'à ce jeu-là, peut-être que Rousseff va remporter hein, ce duel en termes d'impact.
Ouais.
Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Nakamura a au moins montré que, en termes de rythme, c'était un match qui durait un quart d'heure. Le rythme était bon, l'ambiance a vachement aidé parce que c'est quand même des mecs hyper over qui étaient devant nous. Du coup, bah, au moins le match lui a pas fait trop de mal, mais c'est vrai que, d'un côté, il a mis en avant ce match a mis en avant le fait que. Il est prêt pour un match du calibre de WrestleMania, surtout avec l'adversaire qui l'attend, je pense. Mm. Tu vois. Mais ça met aussi en avant le fait que il n'est pas. Comment il se dépasse toujours pas, quoi. Il se dépasse
non.
toujours pas.
Non, très
et
clairement.
Se
ouais,
dire que faire le main event de WrestleMania, ça motive pas un mec à se dépasser. C'est un peu ça reste frustrant quoi toi tu te dis putain
un petit peu ouais.
Voilà alors on fait une présomption d'innocence on va dire en se disant que le mec dans son match à WrestleMania face à AJ Styles qui est son pote ils vont y aller tous les deux et on va retrouver le Nakamura qui a délivré les grands matchs qu'on a connus à NXT par exemple enfin, pas tous hein, mais certains face à AJ Styles, mais ouais, là il n'y a pas eu de magie ou quelque chose en plus qui aurait fait ouais, c'est bon là pour WrestleMania. On a le Super Saiyan quoi, Nakamura en mode Super Saiyan.
Non, clairement pas. Et puis ça reste, enfin comme tu dis, ça reste un peu plan-plan, mais ça reste plan-plan aussi bien orc et faible, comme tu l'as dit. Tu sens que le mec s'arrache pas, alors que pourtant ça devrait être le moment où il s'arrache le plus. Mais ça reste un peu plan-plan aussi bah, dans le kayfabe, dans ce qu'on nous raconte du match, parce que le match était bien. Il était bien le match. Moi j'ai pris du plaisir, je me suis bien marré devant ce match. Mais je ressors pas du match en me disant. Putain, Nakamura, c'est un killer, il en a chié, il s'est surpassé un truc de fou, et waouh, clairement, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner contre AJ Styles. Non, il s'est débarrassé d'un Rusev qui reste, quoi qu'il arrive, il peut être tout aussi over et Rusev Day et tout ça. Ça reste un mec de mid-card qui n'a pas battu grand monde depuis un bon moment. Et il a fait du 50-50, mais du 50-50 un peu mollasson contre un Rousseff. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais bien aimé qu'il y ait une période peut-être un peu plus violente de domination de Rousseff avec, par exemple, Nakamura n'a pas eu à sortir de l'accolade, ce qui était assez surprenant, moi, j'ai trouvé dans ce match.
Il y a un moment, il a essayé de la placer, mais ils
Il a
sont
essayé de la
sortis,
placer, mais il a été contré à chaque fois.
contré, quoi. Donc, effectivement.
Contré à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'on n'a même pas. Enfin,
Il n'y a pas eu
tu
de
sors
geste de
pas.
bravoure où le mec a dû
Non,
surmonter une
voilà, il n'y a
épreuve.
pas eu, exactement, il n'y a pas eu un sentiment de, il a surmonté une montagne et il sort du match d'ailleurs, il sort du match relativement peu égratigné, on le reverra un petit peu plus tard dans l'émission avec sa petite serviette autour du cou détendue. Voilà,
Tranquille du slip.
c'était cool, c'était cool. Bah voilà, moi c'est un petit peu ça qui m'a manqué. Je trouve que pour ce dernier rite de passage, ce dernier petit caillou dans la chaussure, bah c'était un petit caillou dans la chaussure quoi, c'était pas un gros rocher. Voilà, c'est
Ouais.
ce qui m'a manqué un petit peu.
Bon, effectivement, sur le chat, qu'on salue tout le monde, hein, n'oubliez pas, vous pouvez venir réagir, poser vos questions, nous dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. On a Fouriva, qu'on salue, qui nous dit que lui, effectivement, était plus convaincu par Rousseff que Nakamura dans ce match. Donc ça, c'est un petit peu gênant, même si les deux peuvent tout à fait sortir over de ce
Ouais,
match.
écoute, c'est.
Et puis après, ça parle, les gens sont en train de citer les 36 000 communes de France, là, donc...
J'ai pas tout compris.
J'ai pas très compris, je sais pas, il manque un truc. Allez, on enchaîne avec un autre match qui, on va dire, on n'était pas très très chaud, hein, pour ceux qui ont regardé et écouté le gros pré-show justement de catch-up. Bobby Roode qui vient donc défendre sa ceinture face à Randy Orton pour une sombre histoire de top 10. Bon, on se demandait un petit peu ce qui allait se passer, comment ils allaient tourner tout ça. Il y avait plusieurs rebondissements possibles, on va dire. Le premier, c'est l'apparition de Jinder Mahal, en sachant pardon, que Jinder Mahal a fait un petit coucou lors du pré-show sur le plateau. Il a tapé un peu l'intrus, justement. On se demandait est-ce que Bobby Roode allait révéler une part de heel, un petit peu, voire même carrément. Montrer que tout ceci n'était qu'il avançait, que c'était un heel qui avançait masqué depuis le début. Ce qui pour moi aurait été un choix le plus audacieux, un peu abusé, mais bon, pourquoi pas. Rien de tout ça, ou presque. Donc, le style de la Vipère, justement, et du glorieux champion sont très proches. Hein. C'est un peu ce qu'on nous a montré finalement dans ce match-up. Si ce n'est quasiment identique, on se moquait d'ailleurs qu'ils avaient un petit peu les mêmes attirails ces derniers temps. On se connaît bien, on a regardé les cassettes, hein, c'est ce qu'avait dit Bobby Roode. Il a regardé les VHS de Randy Orton. Les RKO et les DDT sont évités. On se fait des headlocks, ça se taunte pas mal hein, avec les chants glorieuses. Randy Orton hein, qui évidemment arrive à haranguer la foule avec une facilité assez déconcertante. Bobby Roode qui finit par se demander quoi faire hein, pour se débarrasser de Randy Orton dans un match qui aura duré comme 20 minutes, un match très long, très classique hein, dans son déroulé. Personne n'a sorti de sa zone de confort. La bonne idée qu'a Bobby Roode pour vaincre Randy Orton, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se jette comme un con, tête la première depuis le turnbuckle. Alors, je pense
Jamais faire
qu'il
ça,
a peut-être pas
jamais.
tout regardé les cassettes
Il
de
a pas
Randy
regardé toutes
Orton.
les cassettes, je pense.
Parce que. Non mais. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe quand tu sautes du turnbuckle, tête la première face à Randy Orton qui est de dos? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est RKO. C'est RKO direct,
Bah,
c'est la punition, c'est la punition. Donc, 1, 2, 3, et oui, tombé, nouveau champion US. Mr. Randy Orton devient donc Grand Slam Champ. Il a toutes les ceintures à son palmarès. Mais il n'a pas le temps de célébrer trop longtemps sa victoire, puisque la musique de Jinder Mahal retentit. il vient passer à tabac le nouveau champion. Bobby Roode vient à la rescousse dans un premier temps de Jinder Mahal, de Randy Orton en éliminant Jinder Mahal, avant de placer à son tour son finisher, donc le glorieux DDT, sur Randy Orton. Et il repart carrément sur sa musique, Glorious. Donc l'histoire qu'on nous a racontée, c'est que Bobby Roode, il a beau avoir regardé les cassettes de Randy Orton, il a beau connaître Randy Orton, il n'a pas trouvé la faille. Pire, il s'est jeté dans la gueule de la vipère, c'est le cas de le dire, et que bah, il n'était pas content à la fin et que il a fait un geste de mauvais perdant sur Randy Orton.
C'est un peu ça, ouais.
Et bah, est-ce que toi, ça t'a convaincu? Ce storytelling pour ce match qui a duré 20 minutes, ce qui est énorme sur la carte.
Ouais, alors. Ça, c'est un des soucis du match. Enfin, pour moi, ce serait le seul souci du match, c'est qu'il a été un petit peu trop long. Parce que, ouais, il m'a plutôt convaincu. C'était. Alors, surprendra peut-être certains, mais moi, c'était un peu ma bonne surprise. C'était un peu ma bonne surprise du pay-per-view, ce match. Parce que, alors, clairement, c'est peut-être la feute qui m'emmerdait le plus sur la carte. Enfin, on verra avec les filles, on en reparlera. Non, mais clairement, j'en attendais rien. Et j'étais assez surpris de l'intelligence, on va dire, du booking de ce match. J'ai trouvé que c'était plutôt bien, ça se suivait bien, ça se regardait bien, et tu sentais, voilà, tu l'as plutôt bien expliqué. D'habitude, quand on voit deux mecs qui se rencontrent pour la première fois. On a plutôt l'habitude, bah voilà, de les voir placer leurs coups habituels, pas de se contrer autant. En fait, c'est vrai que là, tu sentais que il y avait un vrai travail psychologique sur le fait que Bobby Roode avait vraiment étudié celui qu'il admire tant, celui qu'il respecte tant, soi-disant.
Un match au signe du respect, comme le dit
Voilà, le match
François
du
sur le
respect,
chat.
comme le dit François sur le chat. Donc en fait, c'était pas mauvais du tout, et c'était assez intéressant de voir que Bobby Roode justement avait vachement travaillé sur le moveset de Randy Orton. Jusqu'à lui en piquer certains petits trucs, hein, et les commentateurs se sont pas privés de le rappeler quand il fait des petits stomps un peu sur les mains, sur les pieds, la descente du genou sur le visage de Randy Orton à un petit moment. Donc tu sens qu'il y avait des petites pointes d'arrogance qui ressortaient un peu de Bobby Roode, mais il se fait avoir à la fin sur une erreur où, bah voilà, moi je l'ai vécu un petit peu comme ça ce match, et je pense que c'était comme ça qu'il voulait le faire. C'est, bah, il a beau avoir étudié le truc à fond. Bah, il s'est fait avoir comme plein se sont fait avoir avant lui par l'inévitable RKO de Randy Orton. Donc en fait, avec 5 minutes de moins, je trouve que c'était vraiment un match qui était très intelligent. Pour une fois, Randy Orton m'a pas du tout fait chier. J'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Les deux étaient très précis, très intense, pas de mouvement comme ils disent souvent avec Randy Orton, hein, pas de wasted motions, là, pas de move gâché, pas de move inutile. C'était plutôt très propre comme match, donc j'ai bien aimé. Ça racontait une belle histoire. Par contre, alors j'ai pas du tout bon. Alors voilà, c'était un prétexte pour amener l'angle final, mais alors je ne comprends pas ce que vient faire Jinder à la fin du match. Qui a rien à faire là, qui vient gueuler, qui enlève son turban, là, il fait oh, yada, tout ça pour se prendre
Ah, tu parles le Punjabi, dis-donc, ouais. J'ai jamais fait attention.
Oui,
Un
si,
homme, un
ouais.
citoyen du monde, ce Giscal.
Ah, c'est exactement. Donc ça, bon, c'est vrai que l'angle m'a pas trop enchanté, si ce n'est que ça a permis de montrer après une petite pointe de mauvais joueur, comme tu as dit, mauvais perdant de Bobby Roode, qui peut être intéressant pour la suite. Mais bon, comme on s'en doutait, on va s'orienter vers un triple threat. Mais ils ont eu le mérite de moi m'intéresser l'espace de 20 minutes et de faire un match qui était pas dégueu et on en reparlera après pour les filles, mais qui du coup par le parallèle du match avec les filles était assez intelligemment écrit, j'ai trouvé.
Ouais, mais effectivement, c'est ça. Clairement, ça manquait de dramaturgie parce que rien dans la rivalité n'amenait à ce qu'il y ait du drama au
Oui,
sens
c'est
premier
ça.
du terme. On n'était pas impliqué émotionnellement dans ce match, mais c'est vrai que en termes de storytelling dans le ring entre les cordes, quoi, là, il y avait déjà des choses un peu plus intéressantes. Et alors c'est vrai que c'est un peu grossier. Je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est l'histoire qui a voulu être racontée, qui était racontée. Ça reste toujours grossier de se faire prendre vraiment de façon aussi naïve par le RKO. J'aurais aimé qu'il se
Naïve,
fasse avoir
naïve,
sur un
oui.
RKO un peu plus pas original, toi, quelque chose de ouais, d'un peu plus original, parce que là, clairement, il va se jeté dans la gueule du loup. Mais bon, peut-être qu'il était trop confiant, trop sûr de lui.
Ouais, ça
Il s'est vu
justement,
trop beau, Bobby Roode.
ça faisait 20 minutes, il perd un peu de lucidité.
ça me rappelait, c'était comment il s'appelle, alors c'était pas face à Orton, mais c'était Braun Strowman aussi qui avait fait un saut depuis la troisième corde, c'était face à Roman Reigns qui lui avait valu
Ah
sa
oui,
première défaite, mais le mec,
qui s'est mangé le spear.
au bout de 15 minutes, le mec il est plus lucide quoi, il sait plus où il est, il se prend pour un high flyer. Là ce qui était quand même beau, c'est l'image, le ralenti de Bobby Roode, clairement qui juste, il saute. Mais il est pas du tout gracieux quoi, il a juste la tête en
Oui.
avant, les mains un petit peu contre lui comme ça, et puis oh, c'est bon la Randy, je suis bien placé. Ouais, pas de problème. Et le RKO évidemment super bien placé parce que là c'est comme à l'entraînement. Mais je suis d'accord avec toi, voilà, effectivement ils ont réussi à rattraper le coup, un match un poil trop long certes, mais pas désagréable, et finalement bah écoute, intéressant vu ce qu'ils nous ont proposé, enfin le voilà, toute l'histoire alambiquée dans laquelle ils ont dû se jeter pour en arriver là. Et puis voilà, un normal totalement dispensable qui n'avait juste rien à foutre ici. On a une petite séquence backstage qui va donner un petit peu le ton pour nous préparer là pour le main event. C'est Sami et Kevin qui sont donc dans les vestiaires et. Sami joue avec les nerfs de Kevin Owens, il lui promet que hier, c'était hier, on se souvient tous, enfin c'était pas hier, c'est la semaine dernière, qu'il lui a mis un.
Sami le philosophe.
qu'il a décroché la tête la semaine dernière à SmackDown, c'était parce que c'était un autre jour, quoi, et que ce soir, c'est ce soir, t'inquiète pas, je suis toujours ton ange gardien. Tu n'as pas à avoir peur, mais Kevin Owens n'a pas l'air de mordre à tout ça. On verra que ça continuera un peu plus tard. Notre autre match, tu en as parlé, tu. Non, c'était pas celui-là. C'est la division féminine, par contre.
Oui,
C'est.
non, ça c'est fait, ça c'est pas, on s'en fout ça. Oui.
Ok. Oui, il faut quand même qu'on en parle un petit peu, Giscal. Hein, de Becky, Naomi, Carmella et Natalia qui s'affrontaient. Donc, Naomi qui se fait, mais alors, démantibuler dans tous les sens. La Naomi, elle s'est fait explosé pendant 10 minutes par Carmella et Natalia. Elle se fait aplatir, marcher dessus, tirer, humilier, arracher les cheveux, un bon paquet de fois d'ailleurs. Et elle parvient enfin à faire le tag sur Becky, ça aura mis le temps, hein, qui distribue quelques mandats à peine. Hein, Becky Lynch, on l'aura pas vu ce soir avant que Naomi ne revienne encore. Alors on se demande à ce moment-là, mais comment elle peut être encore en vie vu tout ce qu'elle s'est bouffé. J'ai trouvé qu'en termes de selling, c'était dégueulasse. On verra un peu plus tard que c'est encore plus dégueu parce que tu t'attends à ce qu'elle soit à l'infirmerie, quand même, vu tout ce qu'elle s'est bouffé. Bah non, elle à peine si elle a transpiré. Non, voilà, elle revient à nouveau. Elle se fait éjecter, Naomi. Et
Oui.
Natalia, donc, elle se bouffe les cordes un peu plus tard. Elle se mange la mallette avec une grosse tatane là, de Becky Lynch. Hein, elle voulait utiliser le plan des deux méchantes, c'était d'utiliser la mallette hein, pour frapper l'adversaire. Et Becky Lynch, par contre, elle ne voit pas le gros kick de Carmella arriver pour le compte de 3. Et donc, Carmella, porteuse de mallette, fait le tomber sur une ancienne championne de SmackDown. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match booké à la dernière minute? Du bien, du mal, de l'indifférence, peut-être?
Oui, rien, c'était de la merde.
Oui, voilà,
Je me
c'est
suis
ça.
fait... Voilà, c'est tout, hein. Je me suis fait chier. Le finish était pourri. J'ai pas compris. Enfin, le finish a pas trop de sens puisque en fait, on prive les heels de leur stratagème, à savoir la distraction et le coup de mallette pour finalement la faire gagner quasi clean sur un ersatz de finisher qui manifestement serait le super kick et ça a suffi pour coucher Becky Lynch qui n'en finit plus de perdre
Aïe aïe aïe.
donc voilà, ça n'avait aucun intérêt.
Ouais. Il y avait. En plus, elle a même pas vraiment joué le rôle du hot tag. Il y avait un. En fait, il y a eu. Je me suis dit, tiens, quand je voyais Naomi vraiment se faire démonter, je me suis dit, ok, il sacrifie Naomi au bénéfice de Becky Lynch qui va vraiment sauver le match et nous dérouler
Que nenni!
une béquille en feu, quoi. Je me suis dit, c'est ce qui va se passer. Bah, rien du tout. Elle est rentrée 2 minutes. Juste pour prendre le tombé. Aïe 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 aïe. On reverra, on les reverra un peu plus tard
Je sais
les
pas ce que
deux
ça
faces.
apporte à Carmella de gagner ce match en plus.
Non, 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 non. Finalement, on se plaint souvent que le porteur de mallette est juste là pour perdre jusqu'à son cash-in. Bah, des fois, c'est vrai que c'est peut-être pas la pire idée qui soit. Hein. Allez, on va passer aux autres choses sérieuses puisque les New Day affrontaient les Usos pour la 53e ou 54e fois. Voilà.
Ça.
Un match sous le signe de la copie, du plagiat ou de l'hommage. Hein, ça dépend des parties en présence, puisque les deux équipes, les deux plus grosses tag teams de SmackDown, allez, disons-le, n'ayons pas peur des mots, se donnent à cœur joie de se piquer leur arsenal respectif, que ce soit les finishers, Midnight Tower, le Uso Splash, les super kicks, les grosses séquences de super kicks. En fait, ils ont juste interverti les protagonistes. Ça marchait plutôt bien. Il y avait vraiment une histoire intéressante à raconter autant que possible, vu que on est vraiment au bout du bout. Hein. Là, quand on arrive à la fin, que la dernière, on va dire le dernier, la dernière construction que tu peux faire dans le match, c'est juste, ok, les gars, bah, aujourd'hui, on va spiquer nos moves. C'est que t'es allé jusqu'au bout et que clairement, l'histoire qui était racontée, c'est qu'ils se connaissaient par cœur. Ils ont
C'est ça.
pas, ils, en tout cas, ils s'éclataient, les mecs. Ils avaient la banane, toi. Ils avaient vraiment la banane, ça les éclatait, je pense à vraiment à se piquer leur move. Mais tout ça n'était que dans l'attente, évidemment, de l'intervention des Blue John Brothers. La musique retentit alors que le match n'est clairement pas terminé. Là, on est un petit peu. La fête est gâchée. Les Blue John Brothers qui viennent détruire méthodiquement à tour de rôle les valeureux adversaires du soir à coups de pied, à coups de marteau, d'escalier. 5 morts dans l'aréna. Ça prendra d'ailleurs un temps fou à évacuer tout ce beau monde. Genre 15 minutes. On a eu le temps de nous passer des packages promo et des séquences backstage à tire-larigot. Ma question, c'est est-ce que tu as été frustré par. Cette intervention qui a mis fin finalement à un match qui était bon, qui était ma foi di divertissant quand.
Ouais, bah écoute, moi j'ai bien aimé ce match. Alors pour répondre à ta question, bah oui, j'ai été frustré, ce qui était du coup plutôt bien joué parce que cette intervention arrive quasi au pic du match. Tu sentais que ça allait partir. On venait de passer l'inévitable double suicide dive des Usos. Tu sentais que là, ça commençait vraiment à partir en sucette, ça s'enflammait. Et là, paf, les Blood John Brothers qui viennent nous priver de ça avec une. Tu as utilisé le terme de destruction là, ou d'émotion méthodique. Moi, j'ai été bluffé par justement, en effet, ce que tu dis. Oui, la précision. J'ai trouvé que ce beatdown était dingue. Enfin, vraiment un des plus beaux beatdowns. Oh là, mais je fais tomber mon micro à chaque fois. Un des plus beaux beatdowns depuis très très longtemps, parce qu'il y avait une précision, mais quasi militaire. En fait, tu les voyais, ils arrivaient et genre ils déglinguaient machin et paf, ils enchaînaient sur l'autre et tout ça en enchaînant des moves de tag team en même temps à l'extérieur du ring entre deux démolitions. Et il y a un moment, je crois que ils sont au milieu du ring et puis t'as je sais plus si c'est Harper ou si c'est Rowan qui envoie un catcher à l'extérieur pour que tout de suite il se fasse cueillir par le deuxième qui l'attendait derrière. Enfin c'était ultra précis, c'était ultra intense, pas de temps mort, ils les ont défoncés. Tu sentais que c'était un vrai enfin là à 2v4 les mecs ne 2v5 même ne tenaient enfin ils avaient aucune chance. Donc j'ai trouvé que le bidon était vraiment top et marque les esprits. Enfin tu sors de là, tu te dis ouais, là, ça commence à être chaud, quoi. Tu vois, genre, il commence vraiment à être très impressionnant.
Complètement
et pour
marteau,
le,
les
ouais.
franges.
Et puis ouais, le coup de vouloir écraser la tête avec le maillet sur les escaliers, bon, ça c'est un peu over the top, hein, parce que bon, tu vois bien que son maillet, il est plutôt sorti tout droit de chez Toys R Us que de sorti d'un chantier de construction là.
Ouais, faut que tu fasses attention de pas le lancer dans le public, hein, parce que
ouais,
y a
ce
des
sera
trucs
un
en
peu
mousse
dommage
là.
parce que déjà tu le vois que quand il le lâche par terre, ça rebondit un peu, c'est un peu
Oui,
bizarre.
à un moment ils l'ont fait tomber, tu sentais que ça avait rebondi un peu hors champ. Tu voyais
Dis
le
bon.
public qui regardait le truc en disant, qu'est-ce que c'est que
Ouais.
ce marteau?
Tu n'as pas à entendre un petit quick, c'est pour les jouets pour enfants.
T'as un chien qui joue avec du chien, tu sais.
Non, mais par contre, oui, alors, parce que François qui nous dit sur le chat que Xavier Woods est paralysé, enfin oui, parce que c'est vrai que la powerbomb sur les escaliers était d'une violence. Moi, j'ai eu très très peur quand même sur le coup, parce que tu vois sa nuque un peu qui sursaute là, comme ça, mais c'est vrai que c'était d'une rare violence. Enfin bref, ce beatdown était dingue. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un des gros temps forts du pay-per-view. Et le match avant. Bah écoute, c'est assez intéressant parce qu'ils nous ont un peu pris à contre-pied avec ce match. On s'attendait allez, un énième classique de 20 minutes, un truc de fou, une démonstration encore. Et ils sont un petit peu allés à rebours de ce qu'on attendait. Et finalement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et c'était plutôt, d'ailleurs, le pay-per-view de manière générale, à part le match dont on a parlé avant, les matchs étaient assez très différents les uns des autres et très bien écrits. À savoir que là, voilà, on avait deux équipes qui se connaissaient par cœur. Et le coup de la partition de je ne fais quasiment pendant 8 minutes, ils ont fait que se voler des moves. J'ai trouvé que c'était pas mal. Puis ils ont catché, comme tu dis, avec la banane, grosse intensité. Écoute, j'ai dans un style complètement différent du match d'avant. Enfin, de Randy Orton, où voilà, c'était très long et on se connaît, mais c'est différent. Voilà, là, on se contre, c'est pas exactement la même chose. Là, on avait un rush de 8 minutes, grosse intensité, tout en accélération. On allait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus vite et avec voilà que du vol de move. Et j'ai trouvé que c'est voilà super. Ils nous ont proposé autre chose et comme quoi ils savent vraiment tout faire ensemble. Donc j'ai bien aimé.
Ah, le selling de Xavier Woods, mais j'étais mort de rire. Le mec, il a convulsé pendant 10 minutes. Et t'avais un pauvre gars du SAMU qui était à côté, enfin de l'infirmerie, et qui lui tenait la tête. L'autre était en train de convulser, il était en train de mourir. Et l'autre, il venait.
Arrête.
Tout va bien se passer, monsieur Woods. Tout va bien se passer. Et
Vous êtes entre de bonnes mains.
je suis en train de mourir. Faites quelque chose. C'était vraiment du.
Non, non, ça va bien se passer, monsieur Woods.
Ouais, c'est ça, vous inquiétez pas, monsieur Woods. J'irai prévenir votre femme. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, je suis. Ouais, c'est vrai que ça avait un peu des allures de segments, voilà, plus de segments plus que de matchs. Mais voilà, on y est, les Blue John Brothers. On se garde les deux plus grosses équipes de SmackDown pour WrestleMania. On y ajoute celles qui montent pour un probable triple frite. Pour la
Oui,
Nouvelle-Orléans.
ce qui s'apparente quand même à un sacré push quand même pour les Blood John Brothers parce que c'est pas n'importe quoi.
Ouais.
On aurait pu imaginer que les Blood John Brothers dans la route vers WrestleMania. Bon, on s'en est vite rendu compte parce que leur montée était trop lente pour que ce soit le cas, mais on aurait pu imaginer qu'ils montent et puis qu'ils aient un match pour le titre jusqu'à Fastlane pour qu'ils servent un petit peu de match de transition pour les champions, pour leur donner un gros affrontement avant peut-être de renouer avec le New Day. Et finalement, non, en fait, ce match aura lieu à Mania et c'est vrai qu'on les met dans les pattes des deux meilleures équipes depuis des mois à la WWE. Donc un triple threat entre ces trois équipes-là, c'est vrai que tu te dis, c'est une sacrée promotion pour eux quand même. Ils ont une
Ouais.
sacrée opportunité là.
Ouais. Non, là, ils étaient tranquilles, ils faisaient leur petit squash match, et là, on va les mettre dans un gros match. Donc, ça va
Oui.
être le test grandeur nature sur la plus grande scène du monde. Et on revient dans une petite séquence backstage. Cette fois-ci, c'est AJ Styles qui se fait gentiment interviewer par l'adorable Renee Young. Quand le facétieux Nakamura, notre gagnant du jour, apparaît. Il espère bien que AJ Styles va gagner ce soir. Comme ça, il pourra lui mettre son genou dans. Et là, le gars, il lui fait attends.
Ah, ça suffit.
Ça arrête, ça
Tu
suffit.
vas me
Lâche-moi,
faire
ok?
chier.
Tu vas pas me faire chier. Tout le monde me fait chier là. Fait trop mal depuis que j'ai cette ceinture là. Ils sont tous en train de me casser les robignoles. Alors sur le coup, je me suis dit, mais mec, enfin, tu sais que Nakamura, ça fait un mois qu'il t'a laissé tranquille, quoi. C'est pas comme s'ils avaient
Ouais,
pas.
c'est pas lui qui te fait chier là.
C'est ça, c'est le. Là, tu mélanges tout, mec, tu mélanges tout. Et donc voilà, un objectif hein, pour AJ Styles, de conserver son ticket pour WrestleMania et pas tomber dans ce triple threat là que proposé par John Cena à Monday Night Raw. Un drôle de. Non mais John Cena, il bouffe à tous les râteliers. On n'y est pas encore au main event. Avant ça, on a notre match pour le championnat féminin. Charlotte versus Ruby Riott. Charlotte qui se fait malmener par Ruby et son squad. La tête prise dans l'étau de la Punk. Une énième hein, tentative d'intervention du Riot Squad, des sbires hein, qui provoquent l'arrivée de la cavalerie Becky Lynch et Naomi, hein, qui sont toutes fraîches, hein, je vous en parlais tout à l'heure, surtout Naomi, elle arrive toute pimpante, elle voit que leur meilleure copine là est en grosse difficulté, puisque Ruby Riot malmène complètement Charlotte, qui va du coup en profiter pour reprendre le momentum. Elle place quelques figures de haute volée, hein, notamment un moonsault là depuis la barricade. L'arbitre finit par virer tout le monde parce que c'est un peu le bordel là-dedans. Sans qu'au passage Charlotte n'ait subi un énième assaut du squad alors que l'arbitre avait évidemment le dos tourné. Mais voilà, un spear, un figure eight plus tard, et la reine conserve son championnat en faisant taper cette punk à chien de Ruby Riot. J'ai noté, le fantasy booking de Giscal se réalise, la
Et oui.
musique d'Atsuka retentit, le masque de l'Empress of Tomorrow s'affiche sur le Titan Tron, le défi est lancé par la japonaise. Allez, tous les japonais à SmackDown, hein, c'est ça. Voilà,
Allez.
allez, hop, tous sur le show bleu. J'ai trouvé que le pointage de signes de WrestleMania était peut-être le plus cool qu'on ait eu depuis un bout de temps avec Asuka qui fait toujours son petit numéro là à se dandiner comme ça à la fois en mode badass et à la cool et Charlotte
Beaucoup de swag,
ouais,
ouais.
Charlotte qui se prend le truc là dans la tronche et qui reste quand même pas impassible mais qui reste digne comme ça comme une statue grecque. Il y avait une belle image, il y a quelques belles photos d'ailleurs qui je crois sur le compte de Botchamania sur le compte Twitter que j'ai
Oui, il y
liké
avait des
sur
très
Twitter, il y
très
a
belles
une
photos.
belle photo
Je pense que je vois laquelle de laquelle tu
ouais,
parles.
où il y a voilà Atsuka qui arrive en arrière-plan. Donc voilà, on y est. Charlotte se met un petit peu à rire nerveusement, elle réalise qu'elle sort enfin de la bouse infâme du booking SmackDown. Atsuka qui vient nous sauver. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, le premier gros match single là, de Ruby Riot dans le main roster, et aussi de la prestation de Charlotte qui, ma foi, n'aura pas eu une route pour WrestleMania très compliquée.
Non, loin de là.
Loin de
Oui,
là.
loin de là.
Voilà. Du coup, ouais. Donc, quelles sont tes pensées les plus intimes?
Alors, mes pensées les plus intimes. Non, écoute, bon, je mentirais si je dirais que j'ai trouvé que Ruby Riot avait été inintéressante dans le ring ou mauvaise. C'est plutôt l'inverse même. Je trouve que elle a fait une très belle prestation. C'était assez intéressant. J'ai trouvé, encore une fois, à défaut de nous avoir enflammés au niveau de la feud, un petit peu comme, c'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure quand je parlais de Orton contre Roode. Je trouve que là, on a un beau match, encore une fois, qui joue sur les forces des catcheuses et sur les forces du storytelling dans le ring pour rattraper une histoire vraiment moisie, qui nous a pas du tout intéressé pendant des semaines. Parce qu'en fait, déjà, j'ai beaucoup aimé. Alors là, pour le coup, on avait quelque chose de très différent de ce qu'on avait pu voir du reste du show. Parce que là, on avait, contrairement à Bobby Roode, qui avait lui manifestement beaucoup étudié pour son premier affrontement contre Randy Orton, là, on avait manifestement une championne qui, peut-être justement, se repose trop sur ses facilités et peut-être sur une road vers WrestleMania un petit peu trop facile. Bah, s'est fait surprendre par quelqu'un qu'elle n'a pas du tout finalement scouté, hein, comme ils disent les Américains, qu'elle n'a pas du tout bossé sur le sujet. Et en fait, Ruby Riot, bah, l'a surpris avec plein de moves. Donc ça, c'était une belle façon de raconter, enfin en tout cas une belle façon de montrer le moveset de Ruby Riot, qui est assez étoffé quand même mine de rien, avec pas mal de moves sympas dans les coins. Moi, je retiens le coup quand elle attrape là entre les jambes la tête de Charlotte et qu'elle la fracasse sur le deuxième turnbuckle. Là, ça, c'est un truc qui est assez sympa, qui d'ailleurs. On verra un peu plus tard dans le show, mais elle le retente une deuxième fois et ça ne passe pas, parce qu'on sent quand même que la championne, du coup, ça reste la championne, tu l'attrapes une fois, mais tu l'attraperas pas deux fois. Et autre truc intéressant, c'était de jouer avec Ruby Riot sur, finalement, elle a placé beaucoup de prises de soumission au sol, énormément, énormément de variantes de prises de soumission assez travaillées, des prises de soumission qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les matchs classiques féminins. Et ça, à mon avis, c'est pas forcément étranger non plus, parce que c'est vrai que maintenant, quand on se projette derrière et qu'on se dit que Charlotte va affronter Asuka, c'est aussi une manière de mettre Charlotte en situation de devoir se battre contre une adversaire qui place beaucoup de soumissions, qui est très mat wrestling comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était assez intelligent. Donc de manière générale, je trouvais que vraiment le match était bien foutu. Le finish, un poil mou du genou. C'était un petit peu Charlotte, lol, wins à la fin. Là, bon, ok, on se débarrasse un petit peu du moucheron qui nous a fait chier pendant 13 minutes. Et puis, bah, on reprend les affaires sérieuses et on la défonce avec un. un figure eight là, assez expédié. J'ai pas été très fan du. Alors je sais que ça, pourtant ça a plu, je crois sur internet de ce que j'ai pu lire là, mais le move qui entraîne le figure eight là, le sorte de, en fait d'Alabama Slam inversé là, quel cas à Ruby Riott dans le coin. Je trouvais que ça faisait quand même beaucoup trop chorégraphié pour y croire, parce que tu sais, en fait, Ruby Riott vraiment fait tout, enfin se remet la tête elle-même dans le turnbuckle là. Je sais pas si tu vois, enfin c'était le move
Alors, je
là
me
juste
souviens
avant.
d'un gros botch, c'était dans les cordes, c'est peut-être cette figure-là dont tu parles, où effectivement c'est Ruby Riott qui fait le mouvement alors qu'elle n'est pas entraînée du tout par Charlotte. Mais c'était un peu plus tôt ça.
Oui, bah si, c'est ça, voilà,
Ouais,
elle est
c'est
pas
ça.
du tout, elle est pendue par les pieds dans le dos de Charlotte, et elle se relève complètement et elle fait la bascule pour aller se fracasser dans le turnbuckle en face.
Ah ouais.
Bon, c'est un petit
Non,
peu, tu vois,
c'est
parce que
pas la même
chorégraphie.
prise, mais c'était une autre encore où effectivement, si cette prise où. Charlotte, elle, je sais plus dans quelle position elles sont, elles se dégagent et en fait, elle est censée éjecter Ruby Riott à sur son, faire la faire pivoter pour qu'elle se mange les cordes et en fait, Ruby Riott, c'est elle qui fait l'amplitude et elle va se bouffer les cordes elle-même. Bon, c'est bon. Après, effectivement, le truc c'est que bah ces filles-là, elles se sont jamais vraiment rencontrées. Ça fait plus le mois de novembre qu'ils se mettent sur la tronche, mais dans des toujours des matchs à 3v3 ou contre les sbires, il n'y a pas vraiment eu de grosses passes d'armes entre Ruby Riott et Charlotte, qui auraient permis effectivement de les roder un petit peu mieux. Mais c'est vrai, t'as raison, elles sont quand même plutôt pas mal sorties. En tout cas, je trouve que Ruby Riott a réussi à montrer qui elle était dans le ring. Voilà, ça fait 3 mois, 4 mois qu'elle est là. Enfin, elle nous montre qu'elle est dans le ring. Après, comme tu dis, hein, elle a juste joué le rôle de la mouche qui colle et qu'on arrive
Oui,
à éjecter avant de passer aux choses sérieuses.
on n'y a jamais vraiment cru. C'est un peu le défaut du match, on va
C'est
dire.
ça. C'est ça. C'est qu'on n'a pas réussi à créer ce suspense, cette menace qui aurait pu vraiment être pesée au-dessus de la tête de Charlotte. Et c'est le gros problème qu'on a. Alors, pour AJ Styles, ils ont réussi presque à le faire, mais dans un truc, c'était en mode vaudeville, quoi, en nous rajoutant,
Oui,
c'était
voilà,
de
c'est une
plus en plus
ficelle un peu grosse.
voilà, la masse d'adversaires qui va faire qu'on va se dire, putain, il va peut-être pas s'en sortir, mais au bout d'un moment, c'est tellement gros que tu dis, mais en fait, il y a aucune menace, vu qu'il y a tout ce monde-là, il va forcément s'en sortir. Là, ils ont pas réussi à construire cette menace, pourtant, ça fait des mois qu'ils sont dessus. Donc, ouais, elles ont quand même réussi, effectivement, à tirer un match intéressant. Charlotte, voilà, en mode un peu minimum, quoi, malheureusement, qui joue, je trouve, toujours le même rôle de la championne qui bah, se fait malmener pendant les trois quarts du match et qui arrive à revenir à la fin, surtout comme tu l'as dit, un peu Charlotte Winslow. Bon, là, c'était plus intéressant parce qu'effectivement, elle était face à un adversaire qu'elle connaissait pas et qu'elle a jamais daigné, comme tu dis, analyser. C'est vrai que ça, c'était une belle histoire, même si c'est toujours pareil. On a toujours l'impression que c'est nous qui faisons, qui écrivons en fait cette histoire-là, parce que
Je sais
finalement,
pas, écoute, ouais, bon, écoute, après on le ressent différemment, mais
ouais,
je.
non, non, mais dans le ring, c'est ce qui s'est passé. Mais Charlotte n'a jamais vraiment, enfin, on l'a jamais vraiment raconté lors de promos,
Ah
etc.
bah non, non, non,
Où Charlotte
y avait pas
disait,
de promo.
j'ai pas, toi, genre, j'ai pas besoin de te connaître pour te démonter, quoi, grosso modo, ça aurait pu être quelque chose comme ça. Pour bah, si en fait, ça peut prendre les adversaires de haut, ça va pas, ça va te jouer des tours. En tout cas, ça y est, on y est. Asuka versus Charlotte, c'est booké, c'est
Oui,
WrestleMania.
voilà, c'est quasi sûr, mais ouais,
Oui,
c'est fait.
en tout cas, elle a montré, elle s'est montrée, et elle a montré son intention, elle a dévoilé son intention d'aller chercher donc la ceinture bleue et non pas la ceinture rouge. On va passer au main event, donc la bouillabaisse, le gros plat de pâtes, hein, avec ce six-pack challenge hein, qui oppose donc le champion AJ Styles à John Cena, Sami Zayn, Kevin Owens, Dolph Ziggler et le Baron dans un match qu'on avait déjà entreaperçu hein, la semaine passée. KO Kevin Owens qui est désabusé par la présence de Sami Zayn lors de l'entrée sur la rampe là, il arrive et Sami Zayn est annoncé juste après, entre juste après, donc il le double. Kevin Owens clairement il est complètement désabusé, il dit mais qu'est-ce qu'il va me faire encore comme ça le coup celui-ci. Nous aussi on est désabusé par la présence de Shane McMahon qui est venu
Oui.
assister, voilà, il s'est pris sa petite chaise et puis il s'est posé là sur le côté, sur le coin du ringside là, hein, pour venir regarder le match. Alors, évidemment c'est gros comme une maison qui va être impliqué. On a une belle présentation des six adversaires. Ah, ils ont tous eu droit à leur petite annonce de contender,
C'est
avec
important.
des grosses pop hein, pour la plupart. Donc finalement, on avait quand même une belle image là de ce roster masculin de SmackDown qui est pas dégueu, il faut l'avouer, mais qui fait peine à voir en termes de storyline. Hein. Qu'est-ce qui a amené tous ces gens à être ici? Allez, c'est parti. Hein. C'est parti avec une distribution. On n'est pas là pour niaiser. John Cena, il n'est pas là pour niaiser. Distribution de Double A sur tout le monde. Alors, tout le monde vient s'empaler sur John Cena. C'est
Et
cartoon. Hein. Là, on n'est qu'au début et tout le monde tombe dans le panneau. On parlait de Bobby Woods qui n'a pas regardé les cassettes de Randy Orton. Mais en fait, personne ne regarde les cassettes de personne.
ouais.
Tout le monde vient se jeter dans la gueule du loup. Sauf AJ Styles qui, au dernier moment, se fait merde. Attends, non, pas moi. Moi, je suis pas con à ce
Non, faut
point-là
pas
quand
que j'y
même.
aille.
Ça ne prend pas duel donc entre les deux gros stars hein, de SmackDown pendant que les autres alors gisent pendant d'interminables minutes. C'était un petit peu abusé, mais John Cena hein, paye sa prétention et son audace quand les 5 se liguent contre le Marine. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Quand les 5 là se mettent tous, ils font putain, mais John Cena, que voilà, on était 5, on était bien tranquille là, et qu'est-ce qui est venu
Nous
nous
fait
faire
chier.
chier là avec. À vouloir là te squatter la WrestleMania, donc il élimine de l'équation. C'est au tour ensuite d'AJ Styles de briller, subissant et contrant les assauts répétés de ses adversaires. Cena revient ensuite dans la partie, chacun brille à son tour. Hein. Là, on vient un petit peu dans le schéma de l'épisode de la semaine dernière. Tente de remporter hein, le match sans faire le tomber sur AJ Styles, sur le champion. C'était la crainte hein, d'AJ Styles de perdre sans prendre le tomber. Styles clash sur John Cena, cassé à temps par Sami Zayn. Le match commence à monter en tempo, en température. C'est le Baron Time ensuite, un gros lariat, le Deep Six. Il nous fait tout là, il a droit quand même à son. C'est le Baron Corbin Show. Tabassage de Dolph Ziggler à travers le plexi là, en mode What the fuck, qu'est-ce qu'ils sont allés se foutre là-bas? À un moment, ils vont dans le public, Dolph Ziggler et Baron Corbin. Et le Baron, mais il. En fait, il se dit, à un moment, tu le vois, Dolph Ziggler, il le passe par-dessus la barricade. Et puis, le baron, il regarde le ring, regarde Dolph Ziggler, il commence à revenir vers le ring. Puis, ah, tu te dis, merde, c'est vrai, il faut que j'aille faire ce truc là sur Dolph Ziggler.
Ouais.
Il dit, je vais l'éliminer une bonne fois pour tout. C'est-à-dire, il l'explose à travers un vieux plexi. On pense à ce moment-là qu'on les reverra pas, mais on les reverra un peu plus tard. Quant à AJ Styles, hein. C'est à travers la table des commentateurs qu'il est passé, le pauvre vieux AJ Styles, éjecté par le double A de John Cena. Le moment attendu arrive, quand Sami Zayn s'offre à Kevin Owens, on est entre les cordes, il reste plus que les deux Canadiens. Sami Zayn lui dit, bah écoute, voilà, on y est. Je te l'avais promis, c'est ton moment, on va réaliser ton rêve ensemble, toi et moi. Je t'aime d'amour. Je vais me poser. Je m'allonge. Regarde. Je m'allonge. Regarde bien. Je m'allonge. Je m'allonge. Je vois que Kevin Owens. Il croit pas trop. Il sait pas trop. Sami Zayn s'allonge et Kevin Owens qui cogite trop. Il y croit pas. Il y croit plus. Il meurt pas. Et au lieu de faire le comment ils appellent ça, le Finger of Doom, le Poke of
Oui,
Doom là, le fameux
oui, c'est
tomber
ça.
sans faire le tomber, gagner sans combattre quoi. Il peut pas s'en empêcher. Il met un petit coup à Sami Zayn. Tac, il sort de dire attends tu me prends pour un con c'est ça. Hein? Moi j'aime pas. Il est pris. Voilà, il a pas confiance. Hein. Sami Zayn du coup bah réflexe. Il tente le petit. Il fait un petit paquet. Il se dit attends qu'est-ce que c'est que ça? Moi je. Il me met une claque. C'est pas comme ça que c'était prévu. Et du coup bah c'est ça ne se produira pas ainsi. Hein. On n'aura pas droit à se tomber facétieux. Donc les deux bah voilà. Ils se mettent sur la gueule. Hein. Ils se mettent sur la gueule sous les vivats de la foule qui en redemande. Voilà hein, les deux meilleurs amis qui se détestent. Gros coup de poing là, de rage dans la gueule de tout le monde. Et c'est parti pour un goût de déjà vu. Sami Zayn ensuite vient engueuler Shane McMahon. Je sais plus trop pourquoi. Lui dit ouais, c'est de ta faute tout ça. Il lui dit hein, c'est de ta faute si on en est là. Kevin Owens me fait plus confiance à cause de toi, etc. etc. Et du coup,
Rien à voir avec le Vakik qui lui a mis 2 jours avant.
c'est ça. Et du coup, et ben Shane finit par se prendre le gros kick de Kevin Owens qui voulait mettre un gros kick à Sami Zayn. Oh, Shane il se l'est bien pris, il se l'est bien bouffé. Kevin Owens a la victoire au bout des doigts, mais Shane, c'est incroyable, Shane en décide autrement en extirpant le gros Canadien du ring avant de réitérer la même manœuvre sur Sami Zayn. Donc, par deux fois, Shane McMahon a cassé le tombé, la victoire qui était offerte à un des deux Canadiens. C'est une honte. Ah, la foule, le conspue là, c'est une grosse bronca hein, pour le commissionnaire. C'était dégueulasse d'agir ainsi. Et du coup, ça reprend. Shane est trop impliqué hein, dans ce match. Dolph Ziggler tente. Alors là, j'ai rien compris. Dolph Ziggler tente même d'en profiter à son tour. Je me suis dit, putain, ils vont vraiment nous la faire avec Dolph Ziggler qui fait le tomber. J'ai trouvé ça ce moment très cool. Le Baron et Cena se battent à coups d'escalier. Le Marine enclenche le mode winner. Double A sur Dolph Ziggler. Là, ça y est, hein, ça se termine. Il se fait powerbomber par Kevin Owens. Et ce dernier se fait étaler par AJ Styles, ce qu'on n'avait pas vu depuis 10 minutes. Pour la victoire, bravo champion, 1, 2, 3, tu les as laissés se détruire entre eux. Voilà, tu es un beau champion, un combatif qui perd en weekly, se cache en pay-per-view. Ah, on a un beau cadrage final, hein, avec cette
Oui.
prostituée de Shane qui provoque les deux Canadiens qui sont allongés là aux abords du ring, pendant que John Cena lui est abattu, ouais. Contre le turnbuckle, devant AJ Styles triomphant avec le beau signe hein, violet de la Nouvelle-Orléans de WrestleMania au fond. Donc l'image est belle, hein, l'image est magnifique. Il n'y a pas de souci, on se dit putain, quel bordel pour en arriver là. Et c'est donc ainsi que se termine ce show AJ Styles versus Nakamura, le Dream Match qu'on nous survend depuis des mois aura bien lieu. Il aurait manqué plus que ça, que ça soit pas le cas. Bon, est-ce qu'ils s'en sont bien tirés avec cette grosse stipulation tarabiscotée, quoi? On a mis un gros panier de crabes et puis YOLO, quoi.
Ouais,
Il y avait
oui, bah,
plusieurs histoires dans ce...
c'était une belle petite fiesta de house show, quoi. Ouais, c'était sympa. C'était évidemment que c'était fun à regarder avec tout ce talent dans le ring. Un six-pack challenge, ça pouvait être que cool, hein. Mais je sais pas, je me. Il faudrait qu'on se repasse la bande de jeudi dernier pour le supplément SmackDown. On avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit qui se passerait que AJ Styles allait casser plein de tombées, que Sami Zayn et Kevin Owens allaient se foutre sur la gueule, que John Cena allait look strong et que Baron Corbin et Dolph Ziggler allaient faire des beaux moves et machin. Bon, bah voilà. C'est ce qui s'est
Ouais.
passé. Et
Ouais.
que, et oui, et puis que AJ allait ramasser son petit tombé derrière pour gagner.
Ouais.
Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. En fait, c'est ça le problème. C'est que, mais bon, c'est malheureusement un problème qui était inhérent, enfin, qui était présent dans quasiment tous les matchs de la carte. Mais alors, sur celui-ci, encore plus, tellement il nous avait ruiné le truc mardi. Mais c'était qu'il n'y avait aucun suspense, en fait. Alors, ouais, en fait, tu vois. Tu vois un beau bordel, un joyeux bordel, très bien exécuté, très bien chorégraphié. Il y a eu des très
Dans
beaux moments.
l'exécution,
Il n'y
c'était
avait
parfait.
rien à dire, il n'y a rien à dire. Tout le monde a été au niveau. AJ Styles a, comme d'habitude, été phénoménal, a pris des bumps de fou. Il n'y a pas de souci. Baron Corbin, toujours capable de sortir son épingle du jeu dans ses matchs à plusieurs, hein, qui cache un petit peu, c'est vrai. Ses lacunes de quand il est en 1v1 avec ses problèmes de
Il n'est
phase de
pas
heat
fait
un
pour les
peu.
1v1, pas encore, ça c'est
Ouais.
sûr, hein.
Donc oui, c'était super, c'était très sympa, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Encore une fois, j'ai l'impression, je l'ai dit plusieurs fois sur la review, mais ce serait mentir de dire que j'ai pas aimé ce match. Mais dispensable, quoi, parce qu'on savait exactement, quasiment dans les moindres détails, tout ce qui allait se passer. On aurait presque pu l'écrire, tellement c'était écrit cousu de fil blanc. Modulo, peut-être, je pensais pas personnellement que, malheureusement, enfin, je pensais pas que Shane serait autant impliqué dans le match. C'est
Ouais,
vrai
ça
que
c'est le
ça,
truc qu'on n'imaginait pas forcément, mais
ça, c'est vrai que
du moment qu'on l'a
je
vu
m'attendais
poser sa
pas.
chaise de camping à côté du
Oui.
ring.
Dès qu'il a posé sa chaise et qu'il a sorti les merguez, tu savais que c'était foutu. Donc ouais, c'était un peu chiant parce que bah, tu le voyais arriver gros comme une maison et puis ça pour le coup c'est pas très bien exécuté parce que il y aurait plein d'autres façons de le faire correctement parce que c'est vrai qu'ils sont insupportables ces deux-là à toujours essayer de pourrir les matchs à essayer de parce que c'est marrant ce coup de vouloir se coucher au milieu du ring c'est encore une fois un ultime pied de nez à toutes les stipulations dans lesquelles ils sont. À chaque fois qu'il y a une stipulation,
Ouais.
ils essayent de trouver le contre-pied pour pouvoir contourner la règle et s'en sortir. Et donc c'est vrai que tu te dis qu'ils sont casse-couilles, mais Shane McMahon a l'air tellement insupportable quand il casse les deux tombées en fait ça marche pas et ça marche pas et le public le siffle parce que c'est vrai que tu te dis mais casse-toi, enfin tu nous emmerdes, genre. Mais c'est dommage parce que y aurait des bonnes choses à faire, mais le problème c'est que les bonnes choses, ils les ont abandonnées il y a un mois et demi déjà. Donc là, c'est vrai qu'il revient un petit peu comme un cheveu sur la soupe et il relance le truc au moment où finalement, comme on est passé à autre chose.
C'est ça. En fait, on retrouve le même Shane McMahon, pas que ce soit un gars qui évolue et change énormément, mais on retrouve le Shane McMahon de l'époque de la rivalité Jay Styles Kevin Owens autour du titre US, quoi. Avec les mêmes agissements, les mêmes implications, le mec qui décide de l'issue des matchs. C'est quand
Et
même.
pas prévisible, François qui nous dit, c'est vrai qu'on n'avait pas prévu la coupe de cheveux immonde de Dolph Ziggler. C'est vrai que c'est vrai que les petites tresses plaquées sur son crâne, là, on n'avait pas trop anticipé ça. Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais bon,
Ouais.
difficile d'anticiper quoi que ce soit avec Dolph Ziggler, hein.
Donc bon, écoute, voilà, ils ont décidé de relancer cette affaire avec Shane, donc on pensait abandonner. On verra ce que dit si Daniel Bryan est de retour ou s'il a définitivement abandonné son émission mardi.
Absent pour raison familiale, voilà, il est toujours à la maison, quoi, tranquille.
Ouais. Oui, en fait, paraît-il qu'il était à un mariage de je ne sais plus qui ce week-end, donc du coup, c'est pour ça.
Mariage, quoi. Il pouvait prendre son ordi, hein. C'est bon, hein. Pas casser les couilles.
Vous pouvez faire un petit Skype pendant le match, là, mais.
Bah ouais, attends, on se débrouille maintenant. Hein. On a la fibre, y a le wifi, c'est bon, on va pas nous faire croire à tout ça. Ouais, bah c'est vrai on a eu un bon match, on a eu le match qu'on attendait, sans grosse surprise. Moi, j'avoue que il y a eu quelques petits moments où j'ai pas bondi de mon siège, mais où j'étais, voilà, il y avait la petite montée d'adrénaline. On va dire, genre que Dolph Ziggler vient tenter de tomber, what the fuck. T'es juste en mode là, tu réfléchis plus, tu fais ah, oh, qu'est-ce qui se passe, toi? Et j'ai bien aimé aussi, parce qu'on a suffisamment critiqué l'écriture entre de Kevin Owens et Sami Zayn, comme quoi ils avaient, on va dire, cramé le cou tordu, la filouterie de Sami Zayn et Kevin Owens. J'ai bien aimé le petit moment qu'ils ont eu tous les deux au milieu du ring. Quand Kevin Owens avait vraiment du mal à faire confiance à Sami Zayn, ils l'ont bien joué, quoi. J'ai trouvé que c'était une fois de plus une belle démonstration d'acting de la part des deux, et ils ont réussi à extirper quelque chose à faire avancer encore un petit peu l'histoire sur leur bah sur leur relation, en montrant cette phase de toi, ils sont montés un petit peu encore un cran au-dessus en termes bah, pas, ouais, de quasiment de mind game, quoi, entre Sami Zayn et Kevin Owens. J'ai trouvé qu'ils avaient bien réussi à rattraper le coup par rapport au fait d'avoir cramé justement cette fameuse trahison de Sami Zayn. Alors, c'est une goutte d'eau, hein, dans l'océan de cette histoire qui commence à durer depuis un peu trop longtemps. Mais voilà, c'était pas trop mal. Et puis après, c'est vrai que en termes de work rate, en termes d'impact, les coups étaient bien placés, on a eu de la table pétée, on a eu de l'escalier de sortie, de la baston dans les tribunes. Voilà. Je trouve ça toujours un peu dommage que. Je trouvais que c'était encore presque aux dépens du champion, puisque AJ Styles a surtout servi à prendre les bumps et à faire quelques petits. Peut-être, voilà, placer son move, mais on le voyait vraiment plus sur la fin.
Elle apparaît presque un peu opportuniste et chanceuse, hein, sa
Ah bah
victoire,
c'est carrément
plus
opportuniste.
qu'héroïque.
Ouais, c'est ça. C'est carrément opportuniste, plus qu'héroïque. Il n'a pas non plus passé enfin tout le comment dire le match à subir les assauts des autres, puisque effectivement la stipulation vous veut que t'as pas besoin de battre AJ Styles. Donc si tu vois AJ Styles dans un coin en train de gémir, tu vas pas aller le chercher, tu vas plutôt attaquer un autre gars qui est entre les cordes. Donc du coup c'est vrai que voilà, on se retrouve encore une fois avec un champion qui est pas over à la sortie du dernier pay-per-view à WrestleMania, tout comme son contender qui n'est pas forcément beaucoup plus over qu'il ne l'était déjà. Alors voilà, on part du principe qu'ils en ont pas besoin. Malheureusement, c'est un peu ça.
C'est un peu
Parce
ça,
que
ouais.
c'est le dream match, voilà. Donc deal with it, comme on dit. Va falloir vous en contenter les loulous. De toute façon, il n'y a plus le choix maintenant, puisque WrestleMania
C'est fait.
c'est fait, et que WrestleMania c'est dans 4 semaines, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça, 4 semaines, donc on
Bah,
y est.
ça va être bien quand même, mais.
Ouais, ça va être bien. Non, la carte, on en reparlera évidemment, mais la carte est quand même bien bien fat, hein. Là,
Ils ont
y a...
4 semaines pour mettre la gomme sur AJ Styles Nakamura maintenant.
Ouais. Et ils vont le faire, ils se sont débarrassés de tout, donc. Enfin, ils vont le faire, j'en sais rien, mais là,
Ils vont le faire, ils vont le faire.
il faut qu'ils le fassent, quoi. Il faut qu'ils le fassent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, allez, c'est l'heure du mot de la fin pour ce dernier pay-per-view avant le plus gros d'entre tous. Giscard, si tu veux bien partager ton top et ton flop et ta note, s'il te plaît.
Ouais. Alors, bon, mon flop, on l'évacue, mais c'est la victoire, enfin, c'est l'énième tombé pris en pay-per-view par Becky Lynch. Y a pas eu d'autres gros loupés pour moi dans ce pay-per-view. Mon top, bah écoute, mon top, je vais le donner à quelqu'un sur qui j'ai pas mal, on a pas mal craché depuis un petit moment, mais qui a montré de belles choses sur ce pay-per-view, c'est Bobby Roode.
Oh, bah dis donc, tu vas le chercher loin celui-là.
Ouais, non, mais qui pour moi était, c'est ma bonne surprise, on va dire, du
Ah, c'est
pay-per-view,
bien,
parce
ouais. Ok.
que dans le reste, tout était assez convenu, on va dire. Donc Bobby Roode m'a surpris parce que j'ai retrouvé un peu de plaisir à regarder un match de Bobby Roode, à savoir que j'ai retrouvé ce côté un peu, on est loin du côté magnétique, quasi hypnotique qu'il pouvait avoir, je trouve, dans ses prestations à NXT quand il était heel. Mais voilà, il redégageait à nouveau un truc dans le ring. Je trouve qu'ils ont fait un beau truc avec Randy Orton et ça m'a surpris. Donc, je vais lui donner mon top. Et puis, bah, ma note, je vais donner un 3 sur 5. Écoute, agréablement surpris de manière générale de ce pay-per-view. Je ne peux pas dire que je me suis fait chier. J'ai plutôt bien aimé tous les matchs. Mais c'est resté en surface à chaque fois. C'était intelligemment écrit pour sauver des mauvaises rivalités. Mais ça restait bon bah ultra prévisible et si ce n'est peut-être la victoire de Randy Orton, mais très
Est-ce qu'on
franchement
peut dire qu'ils nous l'ont encore fait une fois à l'envers à SmackDown en nous faisant une route au pay-per-view qui donne pas forcément envie de regarder pay-per-view et puis dans le pay-per-view. Alors d'habitude ils nous surprennent vraiment, genre ils sont allés carrément au-delà de nos espérances. Là je pense qu'ils ont surtout sauvé les meubles.
Oui, là c'est plus oui parce qu'on va pas trop s'enflammer non plus, mais c'était un pay-per-view convenable. Mais très honnêtement, à part la victoire de Randy Orton qui est le seul changement de ceinture, franchement les Bludgeon Brothers ça aurait pu tout à fait se passer à SmackDown. Enfin le pay-per-view s'il n'avait pas existé c'était la même chose hein, et c'était ce qu'on s'était dit déjà avant. Donc voilà, écoute, c'était pour un pay-per-view qui aurait pu ne pas exister, c'était plutôt un bon spectacle.
Ok, très bien. Bah écoute, moi mon top je le donne à Sami Zayn et Kevin Owens pour leurs belles petites interactions là dans ce pay-per-view, notamment ce moment entre les cordes que moi j'ai trouvé plutôt bien exécuté. Mon flop c'est Shane McMahon et ses merguez là. C'était gênant une fois de plus. Et ça ne présage rien de beau. Je vois sur le chat, les gens prient pour que Daniel Bryan ouvre le show de SmackDown ce soir. Ça pourrait être une bonne chose qu'ils reviennent, non? Peut-être pour un peu gueuler ou j'en sais rien. Mais faut qu'il y ait un truc derrière, en
Bah,
fait.
maintenant qu'ils ont relancé l'histoire avec
C'est quasiment inéluctable.
Zayn et Owens, s'il revient pas, je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller parce que je sais pas ce qu'ils
C'est.
veulent faire.
Ouais, c'était vraiment. Enfin, ce.
Il y a encore moyen de faire un truc sympa hein, parce que franchement, si Daniel Bryan se déclare enfin ouvertement du côté de Owens et Zayn, peut-être qu'il y a il y a toujours un truc à faire, je sais pas, un tag team avec les managers derrière là pour le contrôle de SmackDown, j'en sais rien, ou un truc.
Pour moi, il faut faire ça. Pour moi, pour
Pourquoi pas?
WrestleMania, c'est une. C'est. Si on veut encore sauver cette histoire, cette storyline, c'est tu vas à WrestleMania pour le contrôle de SmackDown, quoi. Tu te bats à WrestleMania pour le contrôle de SmackDown en faisant effectivement s'opposer Sami Zayn, Kevin Owens à deux autres. Je sais pas, Baron Corbin et Dolph Ziggler pour. Non mais.
Ouais, voilà, tu peux être sûr que Shane McMahon va vraiment, vraiment être le méchant de l'histoire.
Bah. Bah. Moi ça me dérange pas, c'est quand même un gros connard. Faut dire ce qui est. Non mais pourquoi pas, voilà, ça me déplairait pas, quoi, vu toute la merde qu'ils
Non,
nous
mais bon,
font.
oui, c'est vrai, c'est vrai.
Après, là, elle
Mais
s'est bien
ouais.
bouchée à WrestleMania, mais bon. Un match comme ça avec un enjeu un petit peu politique, il n'y en a pas encore beaucoup. De l'autre côté, à Raw, on est déjà occupé avec le match de Ronda Rousey, mais pour. Plus des enjeux de fierté de s'être fait entuber et de se mettre des claques, etc., sans prévenir. Là, ça peut être effectivement. Là, clairement, on se bat pour le contrôle de SmackDown hein, depuis le début entre
Bah,
Daniel
c'est
Bryan et
un
Shane.
peu
Donc,
ça.
c'est bon, on va aller jusqu'où comme ça. Donc, on règle cette histoire à WrestleMania une bonne fois pour toutes en utilisant effectivement voilà, on fait les équipes là comme au foot là, un pied devant l'autre et puis on pique
Chou-fleur.
Chou-fleur, voilà, on fait ça à Chou-fleur et puis Daniel Bryan, voilà, il prend les deux Canadiens et puis. Enfin, j'en sais
Ouais.
rien, toi, on fait quelque chose. En plus, avec la dramaturgie qu'il y a entre Kevin Owens et Sami Zayn, toujours. Pourquoi pas?
Ce qui est dommage, c'est d'avoir fait traîner le truc autant parce que du coup, maintenant, il s'expose. Déjà que c'était compliqué et que je fais partie des rares à considérer que Shane avait encore un tout petit peu de légitimité dans ses actions. C'est vrai que d'avoir fait traîner le truc autant que ça, maintenant, il s'expose carrément à. Ils vont encore nous faire un classique où ils vont raconter la bonne histoire avec les mauvais alignements, en fait. Où
Ouais.
c'est quasi couru d'avance maintenant, tellement ils ont fait traîner le truc que le public risque de ne pas du tout adhérer à ce qui va être, parce que si jamais l'histoire est telle qu'on est en train de la décrire, tu peux être sûr que Shane sera le face de l'histoire. C'est quasiment sûr, moi je pense.
Ouais, parce que Shane, c'est le mec qui il s'est fait taper dessus en premier à toi, donc du coup il a eu
Ouais. Ah
raison, quoi.
oui.
Ça justifie tous les actes derrière, quoi. Il fait sa justice lui-même et c'est le western, donc du coup, du coup, effectivement, c'est 95% de chance qu'il ait le rôle de face, quoi. Et nous, on attend qu'une chose, c'est qu'il change un peu cet alignement-là pour enfin déclencher le payoff, quoi, qu'il y aura derrière.
Eh
Mais bon,
oui.
voilà, on verra ça ce soir. Je suis impatient de regarder SmackDown.
Oui, moi aussi, je suis très impatient de regarder SmackDown.
Ouais, rien que pour voir Asuka venir, ça pourrait être sympa. Allez,
Ça, je suis content d'avoir. Ouais.
c'en est terminé hein, de ce pay-per-view. La route a été longue, hein, l'autoroute a été longue. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment à la fois en regardant ce pay-per-view et en nous écoutant. Remercie encore évidemment chaleureusement tous les gens qui sont sur le chat, qui partagent donc leur avis en direct. La suite du programme pour nous, c'est évidemment le débrief de Raw et de SmackDown cette semaine. Vous pouvez évidemment nous suivre sur youtube.com/catchupcdc. Abonnez-vous, c'est gratuit, comme le dit Ringside. On a passé les 400
Il a
abos
raison.
et il a raison. Et comme ça, vous êtes prévenus et vous pouvez commenter dans la partie commentaire. N'hésitez pas, hein, au-delà du chat, à commenter en donnant votre top, votre flop et votre note pour ce pay-per-view avant WrestleMania. Mettez des pouces, partagez, likez. Voilà, parlez-en autour de vous. Vous pouvez également retrouver en plus ce podcast hein, en audio. Si vous préférez nous écouter en allant faire les courses ou en allant chercher les enfants à l'école, eh ben c'est sur iTunes, Podcloud et toutes les autres plateformes de podcast que ça se passe. Sur Twitter et Facebook, c'est simple. Hein. C'est Catch Up CDC, voilà, on s'est pas pris la tête.
Ouais.
Simple comme bonjour. Encore merci à toi, Giscale, hein, pour ta
Écoute,
présence, ton
non mais
analyse.
un plaisir, merci à toi, IRM. Ouais.
Voilà, et on vous donne donc rendez-vous à très bientôt et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut!
Salut tout le monde. Petite soupe ricotta basilic courgette. Délicieux.